Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Si nous ne sommes pas entendus, évidemment que nous allons regarder avec les salariés un calendrier, des modalités d'action, mais que oui, nous n'en resterons pas au 5 décembre.
Et le calendrier, il commence ce 5 décembre. Ils veulent en faire une journée noire contre la réforme des retraites. Plusieurs syndicats et organisations étudiantes se joignent aux agents de la SNCF et de la RATP pour une grève interprofessionnelle.
La polémique sur le voile lors des sorties scolaires, elle ne retombe pas. Elle déchire toute la majorité. Ce soir, un rassemblement pour la laïcité est organisé à Besançon pour défendre la mère de famille prise à partie vendredi.
La loi est là pour protéger tous ceux qui ont des signes distinctifs. Et la loi doit continuer de les protéger.
Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité aussi ce soir, témoignage crucial au procès du médiateur, la lanceuse d'alerte Irène Frachon à la barre.
Et faut-il un tribunal international pour juger en Irak les djihadistes détenus dans les camps? La France évoque cette piste. Ce sera notre coup de fil à l'avocate Marie Dosé.
Barricades et scènes de guérilla urbaine à Barcelone. Les indépendantistes dans la rue pour le troisième jour.
On ne voulait pas en arriver là, mais si on ne met pas le foutoir, on n'aura rien.
Enfin, le soulagement pour le musée du Louvre. La justice italienne autorise finalement le prêt des œuvres de Léonard de Vinci pour l'exposition qui ouvre la semaine prochaine. La bourse de Paris stable à 5696 points.
Et la tendance météo avec vous, Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Demain, beaucoup de grisaille encore, de la pluie et quelques rayons de soleil dans le sud. Je vous détaille le temps de demain chez vous à la fin du journal.
Europe 1.
Mais d'abord, on voulait s'arrêter sur cette histoire qui nous frappe tous ce soir. L'histoire à peine croyable de cette famille qui vivait recluse dans une ferme isolée aux Pays-Bas et que la police hollandaise a découverte. Un homme et ceux qui sont présentés comme ses 5 enfants. Ils n'étaient visiblement pas sortis d'une petite pièce fermée sans lumière du jour depuis 9 ans. Pierre Herbulot, il semble qu'ils attendaient la fin du monde. Personne n'avait idée de leur existence.
Oui, jusqu'à l'entrée dimanche soir dans un café de la ville d'un homme de 25 ans. Il est très sale, porte de vieux vêtements, a les cheveux en bataille et parle comme un enfant. Son discours est confus, mais il demande de l'aide, raconte le gérant du bar. La police néerlandaise est prévenue. Elle se rend alors, sur ses indications, dans une ferme, bordée et même cachée par des arbres au beau milieu de nulle part. À l'intérieur, dans une petite pièce verrouillée, les policiers découvrent 5 hommes, un père et ses 4 enfants, tous majeurs, les frères de celui qui a donné l'alerte. La famille vivait ici recluse depuis au moins 9 ans, mais ce qui frappe le plus les forces de l'ordre, ce sont les propos qu'ils entendent dans la bouche de ces hommes. Ils disent, vous l'avez dit, attendre la fin des temps. Certains affirment même découvrir l'existence d'autres personnes sur Terre, raconte une télévision locale. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette famille était retenue contre sa volonté par le gérant de la ferme, interpellé. Un Autrichien de 58 ans, interrogé en ce moment même par les enquêteurs néerlandais, il comparaîtra dès demain devant un juge d'instruction.
Le récit de Pierre Herbulot, merci.
En France, la polémique sur le voile ne retombe pas. Édouard Philippe a écarté l'idée d'une nouvelle loi. C'était hier dans l'hémicycle, mais cela n'a pas clos le débat. Hein.
Non, la droite va déposer un texte pour interdire le port du foulard aux mères d'élèves lors des sorties scolaires. Et la majorité continue de se déchirer. La porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger, s'y est dit favorable. D'autres députés s'indignent. Le président du Sénat, Gérard Larcher, en appelle à Emmanuel Macron pour trancher. L'Élysée répond que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité.
Tout est parti, vous en souvenez de cet incident, justement, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'était vendredi dernier, lorsqu'une femme voilée accompagnant des écoliers a été prise à partie par un élu du Rassemblement National. D'ailleurs, la photo avec son fils qui a été prise est devenue virale désormais.
Et ce soir, un rassemblement a lieu à Besançon. Arthur Mbaché, vous êtes sur place. Rassemblement de soutien à cette mère de famille.
Oui, 250 personnes environ devant les locaux bisontins du conseil régional ici ce soir. Des badges SOS racisme, des logos du nouveau parti anticapitaliste, des militants communistes, des militants En Marche aussi, j'en ai vu, et aussi la présidente socialiste de la région, Marie-Guide Dufay, qui a vu en entretien privé hier la maman voilée de la sortie scolaire de vendredi dernier et ses proches.
Merci d'être là. Je leur ai dit qu'il y avait une grande partie, une immense partie, la majeure partie du pays qui était pour eux. Mais c'est vrai qu'ils ne voient pour l'instant que les tweets abominables, les paroles de rejet et de vindicte. Mais je pense qu'à un moment, la raison viendra et qu'il faut bien admettre que la loi est là pour protéger tous ceux qui ont des signes distinctifs. La loi les protège et la loi doit continuer de les protéger.
Alors il y a ce soir ici un sentiment de frustration qui existe. Se rassembler c'est bien, vient de me dire un organisateur, mais on n'est pas bien nombreux. Où est l'indignation générale, se demandent les gens. L'indignation générale qu'on devrait, disent-ils, avoir partout en France.
Arthur Mbaché en direct de Besançon pour Europe 1. Nous retournons à présent au procès du Mediator qui continue depuis maintenant 3 semaines. Procès des laboratoires Servier et de l'agence du médicament sur cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim. Nous y retournons car c'est un témoignage crucial que le tribunal correctionnel de Paris écoute depuis le début de l'après-midi, celui de la lanceuse d'alerte, la pneumologue Irène Frachon. C'est elle qui avait révélé l'ampleur du scandale.
Bonsoir Chloé Triomphe.
Bonsoir.
Vous suivez justement l'audience. Irène Frachon expose ses arguments avec beaucoup de technicité, mais un certain sens de la formule aussi.
Oui, car Irène Frachon est tout sauf une ponte au langage pour initier. C'est à la fois sa singularité et ce qui explique sans doute qu'elle ait découvert par ses observations de non-spécialistes ce que les meilleurs chirurgiens cardiaques n'ont pas décelé en 30 ans. « Je suis tombée de l'armoire », résume-t-elle quand elle évoque les études de cas cliniques et qu'elle fait projeter devant la cour des photos de cœur. Celui de droite, c'est celui de Marie-Claude, balance Irène Frachon sans pincette en décrivant sa valvulopathie consécutive à la prise de Mediator et qu'elle décrit cet aspect visuel avec cette image, c'est comme de la glu autour de la valve. Pour maître Charles-Joseph Houdin, avocat de nombreuses parties civiles, Irène Frachon a aussi le mérite de mettre de l'humanité dans ce procès.
Elle nous parle des victimes, elle nous parle de Marie-Claude, elle nous parle de Martine, elle nous parle de Séphérina. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle du Mediator, mais derrière des techniciens, des chiffres, des études, y a une réalité humaine. C'est des victimes.
Quant au laboratoire Servier, qui écoute patiemment cette longue déposition et qui se voit taxé de manipulateurs, de falsificateurs et qui sont accusés par Irène Frachon d'avoir fait preuve d'un inébranlable déni, ils attendent à leur tour de questionner la pneumologue.
Chloé Triomphe au palais de justice de Paris et au chapitre judiciaire, la cour d'assises d'appel de Haute-Vienne a condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme Rosa da Cruz, cette femme qui avait caché et confiné son bébé dans le coffre de sa voiture pendant 23 mois, la petite Serena qui en a gardé de graves séquelles.
Il est 18h07 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Nous en venons à la situation en Syrie. Comment éviter que les djihadistes détenus par les Kurdes ne s'échappent dans la nature à la faveur de l'offensive turque? C'est toute la question que la France tente de régler.
Et ce matin, dans la matinale, notre enquête Europe 1 vous révélait le plan du gouvernement français négocier avec les autorités irakiennes le transfert de ces détenus particulièrement dangereux de la Syrie vers l'Irak pour les éloigner des combats. C'est ce que va tenter d'obtenir Jean-Yves Le Drian qui va se rendre à Bagdad prochainement. La France et d'autres pays européens négocient aussi la création d'un tribunal international en Irak pour juger ces djihadistes.
Et c'est notre coup de fil ce soir. Bonsoir Marie Dosé.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocate de plusieurs familles de ces djihadistes. Un tribunal spécial international pour les juger sur place. Est-ce pour vous une idée aujourd'hui acceptable?
Non, ce n'est pas une idée acceptable. Cette hypothèse, elle avait déjà évoqué. Évidemment, elle se heurtera au droit international, au veto des États-Unis. Et puis, on n'est pas si explicite que ça. Ce qu'a dit ce matin Jean-Yves Le Drian, c'est qu'il a envisagé qu'elle soit jugée en Irak, et non pas dans le cadre d'un mécanisme international de jugement, mais bien par la justice irakienne, celle qui torture, celle qui condamne à mort. Et puis surtout, je rappelle très fermement que les transferts de nos ressortissants du Kurdistan syrien vers l'Irak sont des transferts illégaux et que Jean-Yves Le Drian a déjà eu à s'expliquer devant les Nations Unies qui se sont ouvertement offusquées de la réalisation du transfert illégal de 12 djihadistes français qui ont été condamnés à mort et qui ont été emmenés sur l'ordre de la France par les Kurdes.
Pour vous, derrière, c'est uniquement un argument politique qui empêche le rapatriement de ces djihadistes et de ces familles pour être jugés en France?
C'est un argument populiste. Imaginez-vous aujourd'hui qu'un ministre affiche clairement sa préférence entre la justice irakienne et la justice antiterroriste française. Ces femmes, elles ne sont judiciarisées qu'en France. Elles sont toutes sous le coup d'un mandat d'arrêt international français. Les juges antiterroristes enquêtent sur ce qu'elles ont fait là-bas, ce qu'elles ont fait en France, depuis des mois, parfois des années.
Et si c'était un tribunal international, c'est quelque chose que vous accepteriez, un tribunal international?
Ça a déjà existé, Marie-Dosé. Il y a eu, pour le Rwanda, on connaît l'histoire.
Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que cela prend? Est-ce que vous vous rendez compte des embûches sur la création d'un tribunal pénal international? Avez-vous discuté avec des universitaires spécialisés en droit public international sur cette hypothèse? Personne n'y croit. Vous êtes ici en zone irako-syrienne, dans un pays extrêmement instable. Vous aurez le veto des États-Unis et tout le monde le sait. Ça n'est pas réalisable, pas avant des mois et des années. Et en attendant, ces femmes vont être avec leurs enfants dans des jolies gratte-ciels, là où l'État islamique est né. On est en train de faire n'importe quoi.
Merci beaucoup Marie Dezé d'avoir répondu à nos questions ce soir, avocate de plusieurs familles de ces djihadistes.
Et on apprend ce soir que deux djihadistes belges se sont échappés de leur prison en Syrie, c'est ce qu'indiquent deux députés belges. Aujourd'hui le ton est monté entre la Turquie et les États-Unis. Le vice-président américain Mike Pence doit décoller pour Ankara. Il sera finalement reçu demain par le président Erdogan qui dans un premier temps refusait de le rencontrer. Le sujet était cet après-midi au menu d'un conseil des ministres franco-allemands. Emmanuel Macron et Angela Merkel côte à côte à Toulouse, on y revient dans le journal de 19h.
Alors, Europe 1. Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre, cachez bien la date, le 5 décembre, ça risque d'être très compliqué. RATP, SNCF et désormais grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.
On ira à Barcelone, marqué par des scènes de guérilla urbaine. Et puis Marie-Antoinette, objet d'une exposition à Paris. En fait, on parlera plutôt du Louvre qui va finalement...
Ça y est, pouvoir, oui.
Oui, parce que c'est tombé entre-temps. Ouais. Qui va pouvoir récupérer les œuvres italiennes prêtées par l'Italie. La justice a tranché.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les syndicats veulent en faire la journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites. Prenez votre agenda, ce sera, Sébastien, le 5 décembre.
Ouais, plusieurs syndicats, dont la CGT, Force ouvrière, Solidaire et les associations étudiantes et lycéennes rejoignent les agents de la RATP et de la SNCF qui avaient déjà fixé cette date comme point de départ d'une grève illimitée. Ce sera donc finalement la première journée interprofessionnelle. Écoutez Bernadette Groison, la secrétaire générale de la FSU.
Nous appelons à la grève le 5 décembre prochain avec d'autres organisations syndicales pour peser sur les choix qu'est en train de faire le gouvernement en termes de réforme des retraites. Sa proposition de réforme à point ne nous va pas parce que nous savons qu'elle sera synonyme de baisse des niveaux des pensions et de baisse aussi des droits pour les salariés. Et nous voulons déjà dire cela et le dire fortement et dire que nous avons d'autres propositions pour, à l'inverse de cela, permettre un meilleur niveau des pensions, permettre l'accès aux droits, permettre davantage d'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette journée du 5, elle est faite pour porter ces propositions et peser sur les choix actuellement en cours et les discussions qui ont lieu avec le gouvernement.
Bernadette Groison de la FSU, jointe par Olivier Samin. Négociation marathon toujours en cours sur le Brexit. Les bases de l'accord sont prêtes, affirme ce soir le président du Conseil européen Donald Tusk. Il évoque un potentiel compromis qui pourrait être acté par les dirigeants européens qui se réunissent demain.
En Espagne, maintenant, la mobilisation des Catalans ne faiblit pas depuis la condamnation des leaders indépendantistes.
Une troisième soirée de manifestation et le gouvernement à Madrid qui dénonce la violence généralisée après des scènes de guérilla urbaine hier soir. Barricades et containers en feu en plein centre de Barcelone. Henri de la Guérie, vous êtes notre correspondant. Ça a clairement marqué un tournant. C'est la première fois qu'on voit de tels affrontements.
Effectivement, effet nouveau, de plus en plus d'indépendantistes justifient ces débordements. Josep, retraité, explique qu'il a passé l'âge de lancer des pierres contre la police, mais hier soir, il se réjouissait de voir tous ces incendies dans la ville.
On ne voulait pas en arriver là, mais si on ne met pas le foutoir, on n'aura rien.
Voilà le président catalan Quim Torra n'a toujours pas condamné ces violences. La situation est pour le moins étonnante. Il appelle à la mobilisation d'un côté dans la rue et dans le même temps c'est la police catalane, celle qui est sous ses ordres, qui charge contre les manifestants. Ce soir la mobilisation se poursuit. Derrière moi vous entendez l'hélicoptère de la police. Des milliers de personnes marchent sur les routes de Catalogne direction Barcelone pour une grève générale vendredi. Des voies ferrées et des routes sont coupées. Pour Josep, cadre dans un groupe pétrolier, il faut tout bloquer.
Il faut bloquer l'aéroport, les ports, et toutes les routes. Si on collapse Catalan, on collapse toute l'entrée à la France, à toute l'Europe.
Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, c'est une source d'inspiration pour vous ?
Absolument.
Et on a appris aujourd'hui qu'un vacancier français d'une soixantaine d'années est mort d'un infarctus lundi soir en tentant de rejoindre à pied l'aéroport de Barcelone qui était alors bloqué par les manifestants.
Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en ligne de Barcelone, merci.
C'est un sacré soulagement hein, ce soir au musée du Louvre. D'ailleurs, on a suivi ce dossier. Diane Chenouda était déjà venue sur cette question. Voilà, ça y est, on a l'épilogue. La justice italienne vient finalement d'autoriser le prêt par l'Italie des œuvres de Léonard de Vinci.
Oui, parce que le prêt sur lequel Paris et Rome s'étaient mis d'accord avait été suspendu attendu à la demande d'une association, Diane Chenouda, parmi ses œuvres qui vont donc finalement pouvoir venir. Il y a notamment le dessin L'homme de Vitruve.
Absolument, c'est le dessin le plus célèbre de Léonard de Vinci, l'un de ses chefs-d'œuvre, cet homme de Vitruve, dessin iconique qui représente le corps parfait de l'homme au centre de l'univers, un homme nu dessiné dans un cercle et un carré, dessin très fragile, à la plume et à l'encre, exécuté en 1490. C'est un peu la Joconde de Léonard pour les dessins, une œuvre humaniste conservée à Venise, qui devrait donc pouvoir faire le voyage jusqu'à Paris. Alors le musée ne fait aucun commentaire, mais bien sûr qu'on imagine le soulagement pour le Louvre, même s'il reste un grand point d'interrogation. Le célèbre dessin va-t-il arriver à temps pour l'ouverture de l'exposition dans une semaine, le jeudi 24 octobre, pas si sûr, car cela prend du temps d'affréter un avion, de faire le constat de départ et d'arrivée qui permet de vérifier que l'œuvre n'a pas été altérée par le voyage. Bref, tout ça demande énormément de précautions, une certitude, enfin en tout cas on l'espère, l'homme de Vitruve, bien, même s'il arrive en retard, sera exposé au Louvre à Paris et devrait l'être pour 2 mois.
Et vous viendrez nous raconter cette exposition, bien sûr, quand vous l'aurez vue. Elle ouvre la semaine prochaine au Louvre Expo Léonard de Vinci.
Merci beaucoup Diane Chenouda, merci Sébastien Krebs. L'info revient avec vous à 18h30.